la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et salut à tous, une nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette, la 72e exactement, une émission spéciale coup de cœur d'Héloïse avec Nico qui est là. Salut Nico.
Salut.
Héloïse, bien sûr, vu que c'était coup de cœur,
hein,
toujours présente. Salut Valérie.
Salut.
Et Popo qui est là.
Salut tout le monde.
Qui était un peu en avance et qui est à tout à l'heure au final, hein. On n'expliquera pas que tu es venu 2 heures avant, te trompondeur, hein, on le dit pas ça. Alors des coups de cœur, Héloïse, qui concernent quoi? Principalement des romans aujourd'hui.
C'est marrant d'ailleurs le mot coup de cœur, je vous coupe, mais...
Vas-y.
Un coup de bâton, un coup de lune, un coup de soleil.
Mais... Un coup d'amour, un coup de je t'aime.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est
à la fois joli et c'est ambigu. Coup
c'est
de
vrai.
Cœur. Hein voilà. Alors, c'est juste comme ça.
Explique-nous, Héloïse, coup de cœur, pourquoi
là,
c'est ambigu.
On peut dire que c'est vraiment des coups de foudre, même pour les livres que je vous ai donnés. Et voilà, effectivement, quand je lis un peu de tout, mais ce que je préfère, c'est les romans, la littérature étrangère ou française. Et voilà, donc aujourd'hui, ça sera principalement des romans.
D'accord. Alors, on va voir si on a eu aussi, nous, des coups de cœur ou pas dans cette émission, ça dépend. Popo, qui a bien travaillé, qui a lu 2 livres, on va te laisser commencer cette émission.
Ok. Eh ben, je vais commencer par Gioconda.
T'as eu du pot, Popo ?
Non, j'ai ni pot ni popo.
Tu devais pas faire que des messages subliminaux, normalement, Nico ? Parce que là, c'est pas très subliminal, tu vois. C'est...
Non, mais je commence doucement.
Pas du tout.
Pour pas vous perdre, les filles.
Ouais. Pauline.
Ouais, alors pour commencer, Gioconda, un petit livre qui a été écrit par Nikos Kokantzis, qui est grec.
Si le nom, il est déjà ça.
Et d'ailleurs, c'est un livre qui se passe en Grèce. Donc, je vais pas pouvoir vous parler énormément de l'histoire, parce que c'est un tout petit livre, donc si je vous en raconte trop, je vous dévoile tout. Mais ça a été un coup de cœur pour moi aussi. Ça a été un coup de cœur pour Héloïse, pour moi aussi. C'est un livre qui m'a un peu bouleversée. Voilà, donc elle est racontée par Nikos lui-même, puisque c'est son histoire. Il est né en 1930, donc en Grèce, et dans les années 40, il rencontre Gioconda, qui va être son premier amour.
C'est une femme, donc.
C'est une femme, oui, c'est une jeune fille, une petite fille, et puis ils vont...
Oui, ils sont adolescents,
ouais,
et c'est sa voisine.
Jeunes adolescents, ouais. C'est sa voisine et donc en 1975, il va décider d'écrire leur histoire, de raconter leur histoire. Un peu de temps après.
Oui, je calculais quel âge ça lui faisait.
Ouais.
45.
Et donc il va raconter cet amour d'enfant d'abord, l'amour d'enfant qui est mignon, qui est un peu jaloux, qui est un peu parfois bagarreur et puis qui est très innocent. Et après leur amour d'adolescent, on va dire, qui est beaucoup plus charnel, qui est beaucoup plus physique. Et il va raconter ça avec une douceur, une poésie, avec des mots très simples, mais on ressent tout, on ressent les sentiments, on ressent physiquement des choses, c'est très beau, et en plus on ressent, oui, physiquement.
Tu es un peu fleur bleue.
Je suis très très fleur bleue.
Physiquement,
mais je pense
c'est pas toujours fleur bleue.
Et t'as lu ça à quelle heure?
La poésie.
Ça se lit très vite, hein. C'est un tout petit livre qui fait quoi, 100 pages. À peine 100 pages.
C'était rapide, quoi.
Je comprends pourquoi elle en a lu deux aussi.
Ah. Allez, sois pas jaloux.
C'est tellement facile.
Je faisais 50 pages,
le
tien.
Non, il était long, le mien. Oh là là.
Non, c'est surtout beau de voir comme. Enfin, il nous fait bien ressentir comment l'amour peut faire oublier ce qui se passe dans le monde, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans les années 40 en Europe. Et voilà. Et c'est beau, c'est touchant. On a envie de vivre un amour comme eux ont vécu. On a envie que les gens autour de nous vivent de cet amour. Voilà quelque chose.
C'est son premier amour.
Oui, c'est son premier amour. Oui, et il parle que de cet amour-là. Et tous les autres.
Et c'est un amour charnel ou que platonique?
Charnel, oui, très.
D'accord.
Charnel, mais plein de sentiments. Voilà, il est charnel parce que c'est un amour sincère. C'est pas que charnel.
Ça se passe où en Grèce? C'est sur le continent ou
c'est
sur,
ouais, sur la côte, à Thessalonique.
À Thessalonique. Oui. Ah.
Ouais. J'y suis allé.
Et c'est le seul livre que ce monsieur ait écrit, en fait. Il avait besoin d'écrire ça et juste de raconter cette histoire. Il a rien fait d'autre. Enfin voilà, c'est juste un témoignage pour parler de Gioconda, pour lui rendre hommage et pour rendre hommage à ce qu'il a vécu. Et il y a une certaine naïveté. Enfin, on a l'impression qu'il l'a écrit quand il était ado, quoi. Enfin, c'est vraiment, il a écrit ça quand il avait 45 ans, mais on a l'impression qu'il avait en tête depuis des années, quoi.
Ouais. Oui, on sent que c'est resté là, c'est resté.
Mais c'est pas ce qu'on dit des premiers amours, qu'ils restent infinis. Mmh.
Oui, oui, c'est
infiniment gravé dans nos mémoires.
Eh ben, on le ressent.
Mais là,
on
c'est
le
un ressent témoignage vraiment, ouais, mais c'est parlant ça. De ça, ouais. Mmh. Et c'est très pur aussi. Enfin, c'est vraiment, ouais. Mmh.
Donc, prenons soin de nos premiers amours.
Oui.
C'est ça. Et des premiers amours de nos enfants. Mmh. C'est important.
Dominique A a dit en quatrième de couverture le livre que je préfère au monde. Je ne sais pas qui est Dominique A, mais en tout cas, il a bien aimé. Micros, Lob, c'est quoi comme maison d'édition?
Les éditions de Lob, ils publient beaucoup de polars et beaucoup de livres grecs, notamment
des
traductions de grec. Et c'est une toute petite maison d'édition, ouais.
Mmh, ok. Cet homme a fait quoi dans la vie s'il a écrit qu'un seul livre? Il n'était donc pas écrivain? Merci
pas
Nico
écrivain,
d'éteindre ton téléphone.
Aucune idée.
Non, je pense qu'il avait un autre métier, ouais, mais on ne sait pas, il n'en parle pas. Il ne parle pas du tout de son présent.
Non.
C'est vraiment voilà, ce témoignage-là.
Bah, ça me donne envie de le lire.
C'est quelques années. Ah bah, lancez-vous, n'hésitez pas, parce que c'est assez bouleversant, c'est très touchant et on ne prend pas de risque avec 100 pages.
Oui, c'est un livre à offrir, à offrir à tout le monde. Ouais. C'est un beau témoignage.
Oui.
Très belle pochette. Hein. Je ne sais pas quelle est cette peinture. Nico pourra nous le dire peut-être, si tu le sais.
Non. Ça ressemble, je ne sais pas, du Bonnard sans en être, mais je ne sais pas.
Mmh. Ok.
Ça doit être marqué normalement.
C'est ce que je cherchais.
Après, c'est peut-être lui qui a.
Je n'ai pas trouvé.
C'est peut-être lui qui a dessiné, non?
C'est peut-être lui qui l'a peint.
Alors, mais c'est marqué, c'est un peintre grec, et donc le titre est en grec, donc je ne pourrais pas vous le dire. C'est une peinture de 1909.
C'est Bonardos.
Avec une très jolie jeune fille, toute en forme, avec des longs cheveux qui se les touchent. Voilà.
Qui se les touchent. Très bien, merci Héloïse.
Les cheveux.
Les cheveux.
Très très beau livre, allez-y.
Ok, super. Qui veut prendre la suite de Pauline? Je ne sais pas.
Avec moi.
Allez, Nico,
non,
vas-y.
Non, vas-y, c'est bon, tu peux parler, Nicolas, je sens que tu as
besoin. Quelle politesse aujourd'hui.
Oh là, quel
vous
formalisme.
Combien de livres, Nico, tu présentes aujourd'hui?
Deux.
Ah ben, tiens, à toi. Valérie, combien?
14.
Ah. Mince. Bon, on te laissera la fin de l'émission, on ira manger.
Je pense que je vais monter un mur invisible entre nous aujourd'hui.
C'est vrai, montons un mur.
Un mur invisible, c'est le titre de l'ouvrage que m'a prêté... Héloïse, qui pour elle est un coup de cœur, puisque c'était l'objet. Voilà, un très beau livre. Voilà, Babel, une collection de livres de poche chez Babel.
D'Actes Sud.
Voilà, Actes Sud.
C'est une belle maison d'édition, Actes Sud.
C'est un signe. Ben, c'est une belle découverte de Marlène Hochhofer, en fait, de nationalité autrichienne. Voilà, qui a écrit pas beaucoup de livres, mais celui-là est quand même un roman particulièrement. Dense, profond, sensible. Voilà, c'est une belle plongée dans un univers particulièrement étonnant, étrange, puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui se retrouve un jour prise dans un espace entouré d'un mur invisible. Donc elle se retrouve à la montagne, dans une ferme, chez des amis à elle. Et c'est comment elle va... vivre à l'intérieur de cet espace avec quasiment très peu d'animaux, quelques animaux, hein, un chat, une chatte.
Oui, elle trouve un chien,
une vache, voilà, un taureau. Mm. Voilà. Et comment elle va se reconstituer. Mais d'une certaine façon, c'est un huis clos et c'est aussi une épopée féminine. C'est-à-dire que la femme seule... Enfin bon, parce qu'il faut expliquer que Marlène Hochhofer en fait a revendiqué beaucoup sa féminité à travers cet écrit-là, mais aussi c'est une femme des années 1940, 1950, mariée assez jeune, qui revendique une vision de la femme assez autonome en fait, hein, qui va essayer de se construire à travers des choses très anodines qui sont le travail manuel. Donc c'est une femme, c'est une intellectuelle hein, qui vit dans une ville, etc. Et puis ce jour-là, elle va donc à la campagne et elle se retrouve prisonnière de ce mur. En fait, le mur, c'est un prétexte. Hein. On en parle très très peu. Elle le délimite, elle voit les limites de sa vie aussi. C'est aussi tout ça, quoi. C'est dans ce huis clos, comment elle va s'en sortir alors qu'elle est de la ville. Donc elle apprend à traire les vaches, elle apprend à couper du foin, elle apprend énormément de choses à vivre dans cette forêt, dans ce sous-bois. Et comment la nature omniprésente va essayer de à la fois de l'enfermer et de la faire vivre, et comment elle prend conscience de sa vie. Donc c'est difficile à raconter parce que c'est extrêmement profond, c'est des petits détails en fait tout au long de l'histoire. Ça nous tient en haleine, on se pose la question toujours de ce mur, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et en même temps, on s'en moque un peu, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est comment elle s'en sort, quoi. Mmh. C'est ça, c'est un prétexte. Mmh. Et c'est très profond, en fait. Elle parle vraiment, derrière, il y a toute la condition de la femme, quoi. Comment elle peut s'en sortir, mais aussi l'absence de verbe, hein. Donc elle parle à son chien, à sa chatte.
Oui, voilà, parce qu'elle est qu'avec des animaux.
Elle est qu'avec des animaux.
Oui, ouais. Parce qu'en fait, le mur, elle voit derrière et elle voit qu'il y a des gens qui sont figés, en fait, qui sont pas morts, mais qui sont figés derrière ce mur. Et en fait, elle est comme dans une bulle.
Ouais, c'est ça.
Derrière monde, ce mur, voilà. Une bulle vivante. Et en dehors, en fait, tout est figé, tout est mort. Et en fait, ce qui est drôle aussi, moi, ce qui m'a assez perturbée, c'est que moi, je me retrouverais dans cette situation, mais j'essaierais de longer le mur et de voir où est la limite. Mais vite, elle abandonne et elle se fait à sa condition. Et elle va pas chercher plus loin, quoi. Elle va rester là et faire avec ce qu'elle a, quoi. Et c'est assez dingue.
Ouais, c'est un thème un peu post-apocalyptique, hein, quand même. Hein. Mais c'est vraiment un prétexte parce que dans ce récit, en fait, comme il y a plus de mal et dans cette vallée qui est un peu dévastée. Elle essaie d'idéaliser un nouveau monde en imaginant son futur seul, quoi. Tu vois, jusqu'à compter le nombre d'allumettes pour se dire je peux tenir 5 ans avec ces allumettes et le jour où j'aurai plus d'allumettes, ben qu'est-ce qui va m'advenir. Donc c'est à la fois un peu inquiétant, sans vraiment l'être, parce que tu sens qu'il y a toujours une solution en fait derrière. Voilà, mais c'est très profond. Hein. On est pris, donc moi j'aime bien la SF, mais on n'est pas du tout dans la SF ni dans l'anticipation. Hein. On est vraiment dans un roman sur la condition de l'homme en général, sur son isolement. Comment on fait pour survivre sans parler à personne, quoi, et se construire avec des périodes de désœuvrement total et puis des périodes où tu reprends vie parce que dans le corps humain il y a cette inéluctable envie de vivre et de survivre.
Et c'est pas quand même pessimiste de se dire ben je m'abandonne à ce soir finalement, comme tu disais Louise, toi tu serais allée voir la limitation, oui, et elle s'abandonne en se disant ben tant pis.
Ben en fait ce qui est très positif et optimiste dans ce récit, c'est aussi qu'elle a ses animaux avec elle, quoi. Elle s'occupe d'eux, elle a des vies en fait à sa charge, et c'est quelque chose qui va la motiver et qui va faire de ce roman quelque chose d'assez enthousiaste aussi, je trouve. Enfin voilà, elle va trouver des solutions pour sa vache, elle va trouver des solutions, voilà. C'est très terre à terre, mais en même temps, bah, ça nourrit vraiment son esprit, tous ses travaux en fait de la nature et manuel. Ouais.
Ok.
Voilà, ouais. Donc c'est un beau roman, c'est une belle histoire.
Mmh. D'accord. Bien, gros roman, hein. Oui.
Ouais, gros roman, mais.
Bon, on ne te demande pas, Héloïse, si ça finit bien.
Bah oui, moi, je veux savoir quand même, est-ce qu'il y a une fin? Vraiment, est-ce que ça se...
Il y a une fin, oui. Je vous la raconterai si vous voulez, en antenne, mais bon.
Pendant la chanson de la Compagnie Créole, on dira.
Tu nous remets la Compagnie Créole.
Ah, j'ai eu plein d'appels par rapport à la dernière émission. Je pensais que c'était par rapport au livre qu'on avait présenté. Non, pas du tout, c'était par rapport à la musique, en me disant, mais Compagnie Créole, génial, est-ce qu'on pourrait la voir la prochaine?
Alors, juste pour finir, c'est un film qui a été adapté au cinéma.
Un livre qui a été adapté au cinéma.
Voilà, un film dont on peut voir
Le mur. Oui, le mur en allemand, quoi.
D'accord.
Et il est très beau, si vous voulez pas lire le livre. Il est très proche, en fait, du bouquin. Tu l'as regardé, ouais.
J'ai regardé la bande-annonce, ouais.
Mais c'est vraiment c'est pareil, oui. Quoi. C'est vraiment chouette.
Ouais. Ouais. Ouais.
Donc, si vous avez la flemme de lire, voilà.
Oh non, ne nous dis pas ça, Héloïse.
C'est le manque de temps, c'est pas la flemme.
En même temps, l'écriture, quand même, est très très limpide et facile. C'est pas du tout un bouquin compliqué, quoi.
Oui, c'est très prenant. En plus, on a envie de savoir.
Enfin, ouais.
Ok. Tu as deux livres aussi, non?
Oui, mais je peux t'en parler de un. Je vais peut-être en parler que de un.
D'accord. Voilà. Ok, mais comme
c'est trop de responsabilités, ce livre, déjà, je vais avoir du mal à...
Oh là là là.
Oui,
là
oui
là
parce là. Que quand on te donne, enfin, quand Héloïse te donne un Cécile Coulon à lire, quand c'est... tu sais que ça fait partie du top 10 de ses auteurs préférés, peut-être même du top 3, 3 ouais. du top 1 peut-être.
Tu sais qui c'est le top 2, si elle est top 3? C'est Cécile Coulon.
D'accord, j'aurais pensé que c'était Truman Capote.
Oui, mais après, je peux adorer quelque chose et vous pouvez aussi ne pas aimer, oui. C'est ça qui est...
Non, c'est... Alors, j'ai
ça
eu...
qui est bien.
J'ai eu beaucoup la pression quand j'ai commencé à le lire. Je me suis dit, oh là là, j'espère que je trouverai Cécile Coulon à la hauteur de ce qu'Héloïse le trouve. Et j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais waouh, comment Héloïse peut-elle aimer un roman régional? Parce que quand j'ai commencé à le lire, eh bien, c'est possible d'aimer les romans régionaux et c'est possible d'aimer Trois saisons d'orage. Donc c'est un livre, j'étais frustrée au début. De pas savoir où est-ce que ça se passait exactement. Alors je m'imaginais vers Clermont-Ferrand parce qu'elle est de vers là-haut, Cécile Coulon, mais en fait ça colle pas du tout la géographie avec. Et en fait on se rend compte que c'est un roman régional, mais complètement imaginé, complètement fantasmé. Et dès le départ, en fait, Cécile Coulon fait une description, j'allais dire géographique, de où est-ce que le roman va se dérouler. Et c'est brut, mais c'est un violent. Enfin, c'est des descriptions qui sont vraiment, oui, taillés grossièrement. Enfin, et ça met dans l'ambiance, en fait. On sent que, voilà, là où l'histoire va se passer, ça va être dur, les gens vont galérer, ça va être violent. Et ça, c'est sur la description des lieux. Et après, on va rentrer sur les habitants donc, de ces villages, des Trois Gueules et des Fontaines, qui sont des... C'est très difficile à décrire parce qu'elle les met loin d'une ville, mais en même temps, de cette ville... qu'on n'arrive pas à nommer, les gens peuvent voir ces villages des Trois Gueules et des Fontaines et qui sont recouverts de poussière blanche puisqu'on a des extractions de carrières. Et ils appellent les habitants de là-bas les fourmis parce qu'ils sont toujours en train de travailler donc dans ces carrières.
Oui, géographiquement, ça se passe sur des... Il n'y a pas trois montagnes ou c'est pas dans une vallée, il n'y a pas une histoire comme ça.
Il y a, il me semble, une montagne un peu à pic qui surplombe le village.
Oui, et il y a...
Et c'est après, c'est un peu vallonné en dessous, voilà, mais c'est un paysage, comme tu le dis, vraiment très brut. Et vraiment, dans ces romans, la nature influence la vie de ces personnages. C'est vraiment très important.
Ils sont soumis aux conditions météo, j'allais dire, de cette ville. Ils sont soumis aussi aux conditions économiques. Alors, on peut le situer des fois après la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps, elle en fait très peu. Enfin, elle nous perd parce qu'elle essaye de nous amener quelque part pour nous rassurer en tant que lecteur vers un endroit contemporain, mais pas trop, dans un lieu qu'on pourrait s'imaginer connaître, mais en fait pas. Et très vite, en fait, après ces descriptions de géographie, on passe sur le roman à lui-même, sur donc la vie d'un futur médecin, André, qui est donc dans la ville et qui part travailler finalement dans ce village des Fontaines comme médecin de village. Et là, on va s'attacher vraiment. Alors, on a découvert le paysage, donc on le connaît, et donc on a envie de suivre André dans ces villages. Et donc, on suit sa carrière de médecin et sa vie et toutes les rencontres qu'il peut en faire. Alors, je ne sais pas jusqu'où aller dans le raconter de sa vie, parce que le roman est long, puisqu'on suit...
Oui, Trois saisons d'orage, voilà. C'est sur trois générations, en fait, que ça se passe.
D'accord.
Donc voilà, et c'est des rencontres magnifiques, on s'attache aux personnages, on en découvre qui nous surprennent, il y a tout dans le roman, c'est-à-dire on va avoir vraiment le côté un peu, entre guillemets, régional au départ, on va avoir le côté un peu comme toi, Pauline, avec Diaconda... sur le côté sentimental, il va y avoir le côté très transmission familiale. On a un peu de transmission père-fils, du poids que ça fait d'être dans l'ombre de son père, l'importance des enfants. Enfin, voilà, il y a un peu tout. Et en fait, finalement, passer la brutalité du départ, ça devient très doux. En fait, ça devient très... très très doux, très très léger et pourtant dans un environnement qui est rude. Et là, moi, c'est là où ça m'a beaucoup beaucoup surprise, c'est ça, cette douceur qu'elle arrive à mettre dans ce milieu qui est très très hostile, isolé et à la fois très rural et très contemporain. Voilà, c'est un peu comment je le ressens. Donc c'est un peu ce mélange de tout et je me suis dit je comprends pourquoi Héloïse aime tant Cécile Coulon.
Mais tu vois, enfin, c'est ce que tu disais par rapport au roman. En fait, c'est vraiment un vrai roman du terroir. Et c'est Le Monde ou Libération qui avait dit qu'effectivement Cécile Coulon était en train de réhabiliter ce genre-là, quoi. Mm-hmm. Voilà, qu'elle en parle, mais avec une écriture vraiment sensible et magnifique, et qu'elle et qu'on peut faire des bons romans régionaux.
Oui, il n'y a pas de mièvrerie, il n'y a pas de.
Trois générations, c'est pas trop long du coup à suivre.
Non, ça, c'est assez limpide, même au contraire, on a envie vraiment de savoir l'évolution. Enfin, si je prends par exemple la fille de Bénédicte, elle est. Tu la vois naître, tu la vois grandir, et au milieu du livre, elle est adolescente, mais ça. Ça passe bien parce qu'elle sait justement dans l'écriture ne pas faire trop de superflu, mais utiliser le bon mot qui te permette de bien avancer. Voilà.
Ok, super. C'est son dernier roman, hein. On est d'accord, parce qu'elle a écrit de la poésie après.
Elle a écrit de la poésie, oui, c'est son dernier. Ouais.
Prix des libraires.
Oui, c'était le prix des libraires l'année dernière, oui.
Tu voulais lire quelque chose?
Je sais pas.
Vas-y. Louis. Ah oui, on pourrait faire ça. Tu pourrais nous lire à chaque fois un passage des livres. Ouais.
La maison ou ce qu'il en reste surplombe la vallée. Ses fenêtres, quatre grands yeux vides, veillent à l'est du massif des Trois Gueules. Les fontaines, ce village minuscule, tachent le paysage. Morceaux de craie dérivant au cœur d'une mer végétale et calcaire. La forêt crache les hommes comme des pépins. Les bois bruissent, des traînées de brume couronnent leurs fêtes au lever du soleil. La lumière les habille. À l'automne, des vents furieux secouent les arbres. Les racines émergent alors du sol. Les cimes retournent à la poussière. Le sable, les branches et la boue séchées s'enlacent en tourbillon au-dessus des toits. Les fourmis s'abritent dans le ventre des collines. Les renards trouent le sol. Les cerfs s'enfuient. Les corbeaux, eux, résistent toujours à la violence des éléments.
Très beau, oui.
Ah oui, mais c'est le départ, c'est que des descriptions comme ça, où on ne parle pas forcément de personnages, d'humains ou autres, mais c'est assez brut, enfin, c'est assez... Ça met de suite, je trouve qu'elle arrive de suite à créer le... à nous faire nous imaginer l'atmosphère assez pesante, assez lourde. On s'imagine que ça ne va pas être drôle. Et moi, au départ, j'avais un peu peur que ce soit trop brut, ouais, trop violent. J'avais peur qu'elle soit en colère, ce petit bout de femme, un peu en colère après la vie. Et j'avais peur que ce soit trop violent. Et en fait, non. Après, quand elle rentre dans la vie des gens, quand il y a besoin que ce soit violent, parce qu'il y a des personnages qui sont violents, elle sait le décrire, mais aussi elle sait très bien décrire les autres sentiments. Donc c'est joliment déroutant.
Ouais, 28 ans seulement.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Tiens, Louise, lis-nous un passage du livre de Pauline.
Voilà. En grec, s'il te plaît. Ouais.
Je me souviens comme si c'était hier de cette période fondatrice de ma vie, de cet éveil dans un délire de couleurs, d'émotions, de désirs. Et en même temps la guerre, le devoir de survivre à travers un combat qui devait effacer le goût de la défaite. Un combat où tout était bien défini, noir et blanc, sans aucune place pour l'hésitation et le doute. J'errais, je m'égarais dans l'humide étendue de ses yeux, avec leur sagesse innée, séculaire, leur perpétuelle invite, leur très ancienne connaissance, ce qu'elle ignorait encore et leur impatience de les découvrir. Nous étions impatients tous deux d'en savoir davantage sur nous-mêmes, à travers nos corps brûlants et le kaléidoscope de nos sentiments, comme si nous devinions qu'il fallait faire vite, que nous serions bientôt appelés à payer notre humble, insignifiante et en même temps énorme part.
Très beau aussi.
C'est fabuleux.
Ouais.
T'imagines en plus le seul roman qu'il a écrit.
Ouais.
Et,
ouais, c'est ça qui est beau.
Avoir utilisé autant de mots.
Il avait tellement de sentiments, tellement... Voilà, ça...
Après, quand tu lis le quatrième de couverture, tu comprends mieux.
Oui. J'ai la tremblote rien que...
Oui, je comprends.
Nico, tu donnes ton livre à Héloïse. C'est le moment lecture.
Oui, c'est toi la lecture, ouais, la lectrice.
Ah ben oui, oui.
Héloïse.
Alors oui, Le mur invisible, donc de Marlène Haushofer. Quand je repense à ce premier été, il m'apparaît bien plus marqué par le souci que je me faisais par mes bêtes que par la conscience du caractère désespéré de ma propre situation. La catastrophe ne m'avait déchargé d'une grande responsabilité que pour, sans que je le remarque, m'accabler d'un autre fardeau. Quand je pus enfin comprendre ce qui se passait, je n'étais plus en mesure d'y rien changer. Je ne crois pas qu'on puisse attribuer mon comportement à de la faiblesse ou à de la sentimentalité. Je ne faisais que suivre un penchant qui m'était inné et que je n'aurais pu combattre sans me détruire moi-même. C'est bien triste pour notre liberté.
Bravo. Merci.
C'est très poétique les livres que tu nous as fait.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu pourrais mettre les trois d'affilée et croire que c'est le même livre finalement.
Après, ça vient peut-être aussi de la façon dont tu.
Oui,
dis,
après. Oui.
C'est vrai que c'est la
je
même voix.
Je mets pas le ton, je suis pas conteuse.
Non, c'est bien. Quand tu présentes, ça fait ressortir.
Il faudrait trouver une conteuse pour lire les livres dans cette émission.
Ça se fait rare à de nos jours.
Une lectrice, pas une conteuse.
Une lectrice, c'est pas. Oui. Lectrice. Ouais, ça se rapproche quand même. Tu dois avoir la tonalité.
Le conteur, il raconte. Le lecteur, il lit.
Voilà. C'est pas du
et tu peux pas raconter en lisant.
Travail.
Moi, je raconte pas en lisant.
Ouais.
Non, tu peux pas faire
toi,
le travail.
T'es à notre niveau.
Non, parce que je suis pas lectrice.
Oui. Oh, oh, mince. Hein. Alors, non, si c'est comme ça, on va voir ce qu'on va voir.
Ah non, bah, du coup, tu vas défoncer le
livre. Du coup, je vais défoncer le livre d'Héloïse. Il y en a marre.
Je suis là pour
là.
Le défendre.
Je vais faire mon gilet jaune, moi, pas content. Il y en a marre, là. Oui, Héloïse, c'est beau, c'est super ton livre. Non, pas de toujours.
Bon, Héloïse, fais ta manu pour voir. Défends-toi.
Allez, tiens.
On va voir une fois qu'il aura fait sa plaidoirie.
Ouais. L'ultimo lector. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voyage. On est allé de Clermont-Ferrand, on est allé en Grèce.
Petite anecdote, la première fois où on s'est rencontrés, que tu m'as interviewé à la librairie, quand j'ouvrais la librairie, il y a plus de 5 ans, tu m'as demandé un coup de cœur, le coup de cœur du moment, et j'ai parlé de ce livre. Et du coup, je me suis dit que te le donner, ça pouvait faire un petit clin d'œil aussi.
J'ai bien fait de ne pas le lire quand tu me l'as donné. Car c'est un coup de cœur d'Héloïse qui n'est pas mon coup de cœur du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. David Toscana, écrivain mexicain, qui a remporté quand même en 2009 pour ce livre les prix Colima, Fuentes Mares et Antonin Artaud France-Mexique, qui nous raconte donc une histoire qui se déroule au Mexique, au nord du Mexique plus précisément, où la sécheresse frappe le village d'Iquamol. Alors par chance, Remigio, l'un des protagonistes principaux du livre, qui ne peut compter que sur ses avocatiers, a lui un puits qui lui permet d'avoir un peu d'eau pour se laver de temps en temps, et pour boire, jusqu'à ce matin où il découvre au fond du puits le corps d'une petite fille. Alors, ayant peur qu'on lui attribue ce crime, qu'il n'a pas commis, enfin on ne sait pas pour l'instant, un crime qui paraît en être un d'ailleurs, il fait part de son inquiétude à son père Lucho, qui est bibliothécaire, une bibliothèque qui est officiellement fermée, dont Lucho ne perçoit plus livres ni revenus, mais qu'il continue à tenir ouverte, même si les habitants d'Iquamol pensent que les livres ne servent à rien. Donc voilà, ça c'est le début de l'histoire. Et Lucho, donc le père de Remigio, Lucho bibliothécaire, lui a du mal à différencier la littérature de la réalité et croit que les livres contiennent la résolution de toutes les énigmes du monde. Donc quand son fils vient le voir, il se dit qu'il va pouvoir résoudre cette énigme par les livres qu'il aime, l'énigme de cette petite fille. N'était-ce pas l'héroïne de La fille du télégraphiste ou la babette d'un célèbre roman? Donc l'enquête policière finalement tourne autour des révélations du bibliothécaire qui éveille d'ailleurs la curiosité de la mère de l'enfant, grande lectrice elle aussi. Alors d'après Lucho toujours, l'écriture, la littérature, c'est la vie et la réalité n'est que le pâle reflet de la fiction. Et si ce n'est pas le cas, si l'écriture ne lui plaît pas trop, hop, Lucho envoie le livre à la trappe, censuré, en enfer, comme il dit encore. Il laisse manger les livres qu'il n'aime pas par des petits scarabées, des petites bêtes, je sais plus ce que c'est, des insectes.
Oh, c'est des rats.
Et des rats. Par contre, il garde jalousement ceux qu'il aime et qu'il apprécie. Il les apprécie tant qu'il les lit, il les relit, et pour s'en repaître, au sens propre d'ailleurs, comme au figuré. Donc l'originalité de ce roman tient au choix de l'auteur de mêler à l'histoire originelle, donc le meurtre, la découverte du corps, l'enquête, des extraits romanesques imaginaires mêlant réalité objective et fiction. Valérie.
Et dans le, il cite les livres qu'il aime, qu'il aime pas. C'est alors, t'as découvert des auteurs que tu connais.
Il y a beaucoup de fiction. Et il y a un livre qui existe vraiment.
Qu'un seul.
Et je vais revenir après. Il y en a qu'un seul. Ouais.
Mais c'est pas un livre français.
C'est un livre français. Oui, mais je vais en parler à la fin. Mais alors, le problème de ce qui m'a pas plu dans ce livre, en fait, c'est que pour mêler réalité objective et fiction, l'écrivain, il passe sans avertissement de la narration de l'histoire au passage romanesque extrait des livres de la bibliothèque, sans aucune précision de ponctuation ou de mise en page, et rien non plus ne distingue les dialogues du reste du récit. Donc, c'est des va-et-vient incessants entre les livres qu'il lit, entre la réalité, entre lui dans l'histoire des livres qu'il lit. Enfin, si ça. Alors, c'est au lecteur, en fait, de comprendre si Lucho parle ou s'il raconte un livre qu'il a lu et qui lui rappelle la situation devant laquelle il se trouve. Donc, c'est un roman complètement déroutant. C'est un choix de l'auteur, mais qui, du coup, m'a complètement dérouté.
Mais finalement, c'est un peu l'objet de l'histoire aussi, j'ai l'impression.
Oui, oui.
En fait, que Lucho, il sait pas lui-même faire la différence entre
complètement
la fiction et la réalité.
C'est pour illustrer, en fait, si tu veux, la confusion du personnage.
Ouais, mais ça embrouille trop.
Ah ouais, elle s'embrouille complètement.
Enfin, c'est pas une confusion, c'est sa façon de vivre, en fait. C'est vraiment, oui, c'est ça, il l'assume tout à fait.
Ouais. Pour lui, il est le pas monde fou, des mais c'est voilà, quoi, lui. C'est
et moi, j'adore, enfin, ce personnage, notamment du bibliothécaire, mais c'est vraiment quelque chose. Enfin, comment gérer une bibliothèque de façon tout à fait anarchique et personnelle, alors que c'est quand même une bibliothèque publique. Enfin, c'est très drôle, cette façon qu'il a de tout jeter et d'en garder. Il n'en a qu'une dizaine qu'il garde dans la bibliothèque.
Ah
oui, oui, ouais, il n'en a vraiment pas beaucoup. Il est très sévère et très critique. Et c'est, il est très catégorique et c'est un personnage vraiment, vraiment drôle. Quoi. Moi, il m'a fait rire et je l'ai trouvé attachant. Et en même temps, il est très énervant parce que voilà, il est trop catégorique. Donc, c'est un personnage qui fourmille de différentes facettes, et tout comme le roman, et ça va à une folle allure, et ça, et moi, je l'ai dévoré, mais sans me poser la question, effectivement, d'à chaque fois, ben, qu'est-ce que c'est, je l'ai pris comme c'était. Et après,
folle allure, pas tant que ça. Moi, je l'ai pas vécu comme ça, parce qu'il y a des longs passages de livres de fiction qui parlent, qui sont très lents, et c'est très fatigant, quoi.
Tu vois, c'est souvent l'écriture d'Amérique du Sud.
Mais je pense que c'est un auteur comme ça, vraiment. Il est vraiment clivant, quoi, cet auteur. Hein.
Moi, j'avais lu Evangelina lui, qui était la Bible réécrite par lui, la part David Toscana, où il partait, pareil, très très barré. Enfin, il a une imagination grandissante.
Est-ce que c'est pas le fait de tous ces gens qui vivent avec des livres, pour des livres, toute leur vie. Ben là, ça fait penser vraiment, pour eux, le monde est littérature, tout est littérature.
Mais
quoi.
Tu raccroches c'est tout au livre après.
Et donc, t'es complètement dans cet univers et ça doit parler à des gens qui sont très proches des livres, des bibliothécaires ou des gens comme ça qui vivent vraiment leur vie à travers ça, quoi.
Mais après, tu cherches des solutions dans les livres à toutes tes questions. Je me pose cette question. Bah, je suis sûre que je vais trouver un livre dans lequel il y aura la réponse.
En même temps, c'est pas faux.
Oui.
En même temps, c'est pas faux et c'est d'autant plus juste aujourd'hui qu'on ne cherche plus dans les livres.
Oui, mais après, tu peux te retrouver avec tu peux te trouver des choses fausses. Je connais quelqu'un qui est fan de Salazar à force d'avoir lu des
livres sur Salazar. Après, il y a toute cette tendance du développement personnel aussi. Les gens cherchent des choses dans les livres.
C'est pour ça que le postulat de base est génial. L'histoire est géniale. Mais après, c'est la façon dont c'est écrit.
T'as pas accroché à
l'écriture. J'ai pas accroché. Là, il part dans des histoires de livres qu'il aurait lus et qui sont pas intéressantes. Donc, on attend que ça se termine.
Alors, qui existe vraiment, je me souviens.
Alors, c'est La mort de Babette, justement. Pierre Lafitte. Voilà. Est-ce que vous connaissiez Pierre Lafitte ? Pas du tout. Alors, il a connu les faveurs du public au début du XXe siècle. Donc, La mort de Babette, c'est l'histoire d'une petite fille qui disparaît dans ce roman pendant la Révolution, je crois. D'ailleurs, qui se balade dans les rues. Il y a la Révolution française. Ça part dans tous les sens. Donc, elle rentre dans un immeuble, elle tape à une porte et là, elle disparaît. Et donc, il va se baser sur cette petite fille qui ressemble étrangement à celle que son fils a trouvée. Elle a une tache, un point noir sur la joue comme elle, qui rappelle un pleur d'enfant, etc. Et donc, Pierre Lafitte, qui a écrit ça au début du XXe siècle, avant que la Première Guerre n'éclate, et n'ensevelisse son œuvre. Alors, d'après certains spécialistes, il est d'un classicisme brillant, d'un style épuré et bucolique, donc je cite ce que j'ai trouvé sur lui, mais qui n'a toutefois guère fasciné les grands mouvements littéraires de l'après-guerre. Les surréalistes l'ignorent complètement. Cécile parle de Lafitte comme d'un très grand abruti, indolent comme une fille et arracheur de dents.
Céline.
Ouais, oui, Céline a dit ça.
Cécile,
Céline, j'ai dit Cécile, pardon.
C'est bien la verve de Céline, un abruti.
C'est ça. Alors, seul Marcel Proust en dresse l'éloge dans Jean Sonteuil et célèbre son écriture aigrelette qui fait de lui le pendant masculin de George Sand.
Ah oui.
Affirme-t-il, ce qui est pas mal.
Donc, et tout ça sur une phrase pour Proust. Du Proust.
C'est ça. Alors, à l'époque, d'ailleurs, certains critiques avinés voient dans le personnage d'Albertine une résurgence de Babette. Voilà, ce sera son dernier titre de gloire avant de sombrer dans l'oubli durant plus d'un demi-siècle et de ce roman, El Ultimo Lector.
Et en espérant que David Toscana ne tombe pas dans l'oubli après El Ultimo Lector.
Non, non. Mais justement, donc, je suis allé voir un peu les critiques de ce livre, mais des critiques plutôt de lecteurs. Hein, et ça va vraiment de « j'ai adoré, c'est vraiment lui » ou d'autres personnes qui disent « j'ai lu le livre dont tu as parlé juste avant et j'ai pas réussi à accrocher, j'ai voulu aller partir sur là, j'ai pas réussi à accrocher, c'est pas un auteur pour moi, je laisse tomber. » Voilà, c'est ça, c'est complètement ça. Après, il écrit très bien, les idées sont originales, mais
C'est un super parti pris, quoi. Ça fait un peu polar pour les gens qui aiment pas les polars et qui préfèrent la littérature, je m'entends.
Le romanesque.
Voilà, là, je me disais, au début du livre, parce que j'ai croisé quelqu'un dernièrement qui m'a dit « Ah, t'as pas un polar ? J'aime bien les polars et les thrillers. » Et j'en ai quasiment pas dans ma bibliothèque, c'est pas mon style. Et quand j'ai eu ce livre, je me suis dit « Ah, ben tiens, je pourrais lui proposer. » Non, 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 pas du tout, parce que là, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas du tout.
Bon, bah, désolé.
Non, mais c'est bien, on est là.
Mais c'est vrai, t'as pas eu une critique, on n'est pas sur la vérité sort de la bouche du cheval. Enfin, t'as
c'est
eu
ça.
Une critique quand même... Ça t'a pas plu, mais t'as apprécié quand même l'écriture,
voilà,
le sujet.
Je vois comment ça, certaines personnes, certains lecteurs oui. vont adorer ce livre. Oui. C'est sûr, il y a des comme Héloïse.
Donc je pense que ta plaidoirie sera très facile, Héloïse, pour gagner le procès.
C'est ça. En parlant de procès, on va parler de musique. Allez. Donc, au vu des nombreuses demandes de passer de la Compagnie Créole, comme je suis quand même sympa, je vais vous laisser choisir le titre que nous allons passer aujourd'hui dans cette émission. On peut passer Bon baiser de Port-de-France.
Fort de France.
De Fort de France, hein?
Port après de des porcs.
C'est
de
quoi le deuxième choix?
C'est ça. On peut passer.
Noël, joyeux Noël.
Non, on l'a passé la dernière émission. C'est ça qu'il avait mis la dernière émission. Ma dernière begin party. Ma dernière begin party, très beau morceau.
Bah celle-là. Alors. Ma dernière begin party.
C'est ça.
Très
c'est
triste,
parti.
Mais bon.
Allez, à tout de suite.
I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got her son involved. I mentioned the past like a running joke and told her without all the rain, there's no stunning growth. Close, to everything and nothing. Picture past the honeymoon and bluffing, where the wooden spoon is only cuffing. Short of the discussion, but the roots can't maneuver out of nothing. I've been suffering these dreamy days, remedying lust. Don't hold any memories of us, rather hold you every day until the memories are dust. Yo, we only caught the train, cause you know I hate the bus. Never get enough.
Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face somewhere late. Leave everything in yesterday.
They asked about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see the mind was changing with the seasons. Shaded for a reason. They would start decreasing. Leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Reckon she's standing with her mum, second to her look. Mother, here's the sun. Rooted in the moment till the memories are done. So I sit and start to wonder on the woman she'll become. Wonder if I had a son or a daughter. Ones that I brought up never strong, never telling me to run, never trying to find a son, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mum. One.
Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday.
Donc, vous avez remarqué, ce n'était pas ma dernière begin party. J'espère tout de même que vous aurez aimé ce morceau. Allez, on revient dans les livres. Qui c'est qui avait deux livres, Popo? Tu avais deux livres, ouais. On te laisse la parole.
Alors, mon deuxième livre, j'en ai pas lu beaucoup, mais j'en ai lu assez pour être un peu émerveillée. C'est un livre très, très particulier. L'histoire, c'est l'histoire de Tila. Elle se présente, elle est maîtresse des épices, elle tient une épicerie qui vend des épices, hein, pas l'épicerie qui vend des bricoles quand on n'a plus rien dans le placard, aux États-Unis. Je me rappelle plus quelle ville.
En Californie.
Ouais, je me souviens plus exactement de où. Et en fait, Tila, elle a un petit peu des pouvoirs. Et elle a tellement de pouvoirs qu'elle va nous faire très souvent oublier qu'on est aux États-Unis, qu'on est, je suppose, dans une période contemporaine, j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui, et qu'elle va nous donner l'impression d'être des fois dans les mille et une nuits, des fois dans une espèce de conte incroyable. Enfin, c'est un livre très particulier. Elle va nous raconter au départ comment elle est devenue maîtresse des épices. Elle est née dans un village en Inde, et puis elle s'est vite rendue compte qu'elle avait, qu'elle ressentait les choses, qu'elle voyait venir des choses. Elle a souvent aidé les voisins, elle a souvent donné des coups de main. Et parce qu'elle avait une sensation particulière de ce qui se passait. On se moque de moi parce que je n'ai pas lu assez du livre, mais croyez-moi, je pense que Héloïse dira que j'en ai lu assez. Peut-être pour ressentir un petit peu les.
Je crois que tu te moques de nous, Popo.
Non, pas du tout.
On considère que j'en ai lu assez, ça c'est à partir de quel pourcentage?
Alors, c'est pas à partir d'un pourcentage.
C'est la préface, là, que tu as lu.
Je pense que c'est à partir du départ du livre, en fait, que je pense que je suis arrivée au moment où le livre va vraiment partir. Elle s'est présentée à nous, on sait qui est-il là. On sait comment elle est devenue ce qu'elle est. Elle est devenue maîtresse des épices, en fait. Après un long parcours, elle a été reine des pirates. Elle s'est retrouvée échouée sur une île.
Et elle c'est a Sissi, été, un peu.
Comment ?
C'est un peu Sissi.
Sissi ?
L'impératrice, Sissi, reine des pirates.
Ah, je voyais plus ça comme une épopée à la Ulysse. Ou...
Ulysse, roi des pirates ? Depuis quand roi des pirates, Ulysse ?
Des mondes du roi Arthur. Alors bon, comme il y a le côté indien, ça va pas vraiment. Mais voilà, c'est ces femmes qui ont des dons particuliers et qui ont une vie particulière. Et donc dans son épicerie, elle va aider ses clients, c'est-à-dire qu'ils vont venir et elle connaît le pouvoir des épices. Chaque chapitre, en fait, aura le nom d'une épice et elle va nous parler de son pouvoir particulier et ce qu'elle peut faire pour aider les gens. Après, c'est pas une maîtresse des épices comme toutes les autres, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui définissent très strictement la vie des maîtresses des épices. Ce n'est pas la seule maîtresse des épices.
Mais ça existe comme...
Non, c'est complètement inventé. C'est... En fait, elle a appris à être maîtresse des épices sur une île perdue au milieu de l'océan avec d'autres jeunes filles pour aider ses semblables ensuite quand elle sera renvoyée dans le monde classique. Mais elle va transgresser les règles. Et la première maîtresse des épices l'a vu tout de suite que Tila avait quelque chose de particulier, qu'elle représentait un danger, mais elle a choisi de quand même la former. Mais Tila va prendre des décisions, a priori, elle va transgresser un peu les règles des maîtresses des épices.
Oui, et pour changer le destin de cette communauté, mais aussi le destin de plein de gens qu'elle va vouloir aider. Oui. Aussi.
Est-ce que ça ne parle pas un peu de l'immigration aux États-Unis et des problèmes d'immigration aux États-Unis?
Si, parce que...
Avec les gens d'origine indienne.
C'est parce que c'est dans une ville très cosmopolite. On imagine Los Angeles ou San Francisco, je ne sais pas laquelle des deux. Mais c'est vrai qu'elle va aussi aider des gens sur ce point-là et sur plein d'autres choses. On parle aussi du système de santé, évidemment, parce que voilà, aux États-Unis, ce n'est pas facile. Et elle va essayer de pallier à tout ça avec les pouvoirs qu'elle a et les épices qu'elle a. Et voilà, et donc avec son caractère, avec sa bonne volonté. Et c'est un personnage assez magique, quoi. Enfin, c'est oui. Une gentille sorcière, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis c'est très particulier comme on mélange le monde un peu magique, féerique, c'est pas vraiment le mot, mais...
Merveilleux.
Ouais. Et la réalité, et puis on retombe en fait... D'un coup, on part dans une espèce de rêve, son monde d'épices, de pouvoir un peu particulier. Et puis d'un coup, clac, on retombe dans la réalité. Ben voilà, comme tu dis, elle va se retrouver face à un monsieur qui va perdre son emploi. Elle veut l'aider, elle ne sait pas comment faire. Donc des réalités vraiment concrètes de la vie d'aujourd'hui. Et cette auteure, donc, elle s'appelle Chitra Banerjee Diva Karuni. Je déchiffre. Elle a ce talent de nous faire rêver et pouf, de nous faire revenir à la réalité d'une manière pas brutale, plutôt douce, mais assez étonnante parce qu'on oublie, enfin moi, plusieurs fois, j'ai oublié que j'étais aux États-Unis au XXe siècle. J'y reviens.
Ça ressemble à un conte un petit peu.
Oui, ça a un gros côté très conte et d'autres aspects très réels et.
Et social.
Ouais. C'est assez étonnant. Alors bon, j'en ai lu très peu. Mais voilà ce que j'ai ressenti.
Ça suffit pour en parler, ouais. Très bien.
Ok, super.
Merci, ouais, ça donne envie. Hein,
ouais,
ça donne envie.
J'ai piqué.
Sois piqué. On va faire une petite pause de lecture, et Louise, parce que tu as des livres en retard, là. Hein.
Alors, mais je ne sais pas, du coup, attends.
Alors, vas-y. Donc, on revient à David Toscana. Non, c'est dur, hein, oui.
Donc, elle tourne les pages.
Ouais. Le premier coup de pioche avertit Rémi Gio qu'enterrer la fillette cette nuit-là n'est pas une bonne idée. Bien que le vent souffle avec force, il n'y a pas d'arbre qui craque à son passage, de feuilles pour l'applaudir, ni d'obstacle qui le fasse hurler. C'est à peine si quelques branches de l'avocatier crissent doucement. Dans ces conditions, il est impossible de couvrir les coups de l'acier nécessaire pour fendre ce sable compact et tenace. Cette terre n'est pas de celle qu'on creuse, dit-on à Icamol. Elle se brise, et de plus, l'habitude porte à réduire au minimum les excavations à cause d'un événement survenu en 1876, lorsqu'après la proclamation du plan de Tuxtepec, destiné à annuler les nouvelles élections, Portillo Diaz prit les armes contre le gouvernement du président Lerdo de Tejada. Il commença sa campagne militaire par le nord, etc. etc.
Voilà. Hop, là, on est passé de l'histoire à la narration tout d'un coup.
Oui, oui, tout à fait.
Vous avez vu ? Compris ?
Ah.
Voilà. Tiens, Pauline, tu as trouvé un passage à lire sur les 10 premières pages que tu as lues.
Alors, ça, c'est la maîtresse des épices.
Comment on fait ?
Le chapitre s'appelle Cannelle. Laissez-moi vous raconter pour le piment. Le piment sec, l'anka, est l'épice la plus puissante. Dans sa cosse rouge et bosselée, c'est la plus belle. Son deuxième nom, c'est Danger. Le piment chante avec la voix d'un faucon décrivant des cercles au-dessus des collines blanchies par le soleil où rien ne pousse. Moi, l'anka, je suis fils d'Agni, le dieu du feu. Je suis tombé du bout de ses doigts pour apporter du goût à cette terre fade. L'anka, je crois que je suis profondément amoureuse de toi. Le piment pousse au centre de l'île, au cœur même d'un volcan assoupi. Il ne nous est pas permis de nous en approcher avant d'avoir atteint le troisième degré de l'apprentissage. Piment, épice du jeudi rouge, qui est le jour des comptes. Le jour qui nous invite à rassembler le sac de notre vie et à renverser tout le contenu pour l'examiner.
Très beau. Et donc, ces piments n'existent pas, alors
Si, je crois que c'est que des épices qui existent.
Il faudrait se renseigner.
Il me semble, elle parle du fenugrec, elle parle du gingembre, du curcuma. Donc,
le fenugrec, ça existe, hein.
Oui.
On fait des pommades, on fait plein de trucs. On le cultive.
Très bien, ça, ouais.
Même les petites pousses ont les graines.
C'est
le germe.
Fromage de fenugrec, ça avait les graines. On rêve d'une maîtresse des épices au coin de la rue, hein, après. Ouais.
Ah ben oui, c'est sûr. Au Moyen-Âge, on mangeait des épices dans les châteaux français.
Oui.
Et oui, parce que ça avait rôle d'antibiotique. Avec ça tuait
les. Ça rapportait pas mal aussi.
Ouais, ça conservait aussi.
Ça tuait les bactéries.
Bah là, il y a cet aspect-là qui est là aussi. Hein.
C'est vrai.
Ce sont les épices qui soignent.
Allez, Nico.
Kokoro de Delphine Roux. Voilà, illustré par Coulang. Donc c'est un petit livre aux éditions pareil, Philippe Piquier. Voilà, qui est très sympa parce qu'il y a aussi des dessins donc à l'intérieur. Alors c'est un livre particulier parce que Kokoro en fait c'est un mot japonais qui signifie le cœur et l'esprit. Et en fait ça nous raconte l'histoire de Koichi qui est là le narrateur de l'histoire et de sa sœur Seki. Deux jeunes adolescents de 12 et 15 ans qui ont perdu leurs parents dans un incendie de leur maison. Et donc, c'est qui la sœur qui est un peu plus âgée? Elle se réfugie dans le travail, dans le côté professionnel, voilà. Alors que lui, en fait, Koichi, lui, il se mure dans un espèce de silence et fait en fait le choix du renoncement, même du renoncement de ses études. Donc, il fait rien, en fait. Il observe le monde, comme s'il était à côté, voilà. En fait, il y a dans ce livre comme une douce mélancolie de narration, mais une mélancolie heureuse, en fait, hein. Comme l'émission d'ailleurs très connue sur France Inter qui est très intéressante, une espèce de mélancolie heureuse qui immisce le lecteur dans son quotidien et qui nous permet à la fois de comprendre dans quel état d'esprit est Koichi, dans quel état d'esprit aussi il nous raconte sa tristesse, voilà, la lecture qui donne du monde, mais en même temps c'est pas un renoncement total, c'est-à-dire on a l'impression qu'il est plutôt en attente, en fait, de se découvrir et de découvrir les autres. Et ça, c'est assez beau. Voilà. Il est seul avec sa grand-mère qui va voir de temps en temps et cherche une solution en fait pour la sortir d'une maison de retraite. Enfin, qu'on comprend être une maison de retraite en fait. Voilà, une maison de retraite qui s'appelle Les Pins Bleus. Il y a des jeux vidéo pour personnes âgées. Enfin, c'est assez étonnant.
En fait, on lui interdit des gâteaux à sa grand-mère. Les infirmières veulent pas.
Ouais, c'est ça. En fait, dans cette histoire, il raconte sa vie, la vie des gens qu'il a autour de lui, la vie de cette sœur avec laquelle il est très proche, comme s'ils étaient jumeaux. En fait, il y avait une espèce de lien fraternel très sensible entre tous les deux. Il n'y a pas besoin de mots pour s'exprimer. On retrouve un univers très japonais en fait, avec de la méditation dedans. On y retrouve comme des haïkus, parce qu'en fait, chaque il y a une centaine de pages qui sont composées en fait dans ce livre de micro chapitres qui vont de quelques lignes en fait à 3-4 pages maximum.
C'est limite des haïkus.
C'est ça, parce que le début de chaque page en fait, c'est un petit mot japonais qui est traduit en français. Et après, on a une histoire qui est racontée.
Il y a des illustrations aussi, Nico.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure. En
fait. Très belle. C'est quoi? C'est du pastel, de l'encre de Chine, c'est quoi?
Je ne sais pas.
Ouais, c'est étonnant.
Oui, c'est du dessin, c'est assez figuratif quand même. Hein. On y retrouve dans ce livre, en fait, tout ce qui fait le charme d'un roman japonais. On y retrouve de la douceur et de la poésie. Quand il dit, par exemple, « Je voudrais rapetisser, retrouver une voix claire, l'énergie, la densité d'une sève de printemps. » On y trouve de la tristesse et de la mélancolie quand il dit « Dans ton jardin secret, n'oublie pas un carré pour les mauvaises herbes. » On y retrouve aussi des phrases chantantes et très visuelles. Sur le tas de sable du jardin, j'élaborais des cités de cailloux, dessinais des sentiers feuillus. Je créais des royaumes pour les escargots, leur aménageais des chambres nuptiales. Il fallait des bébés gastéropodes. Voilà, c'est vraiment un style à la fois très épuré, très fluide. On a envie d'avancer dans le livre pour découvrir ce qui va arriver, quoi. Alors, il arrive rien d'exceptionnel, bien sûr. Mais en fait...
Mais comment il spoil.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est une vraie révolution dans sa vie, ce qui va arriver, quand même.
Ah ben oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est un changement radical. Mais on ne s'attend pas. Ce n'est pas une chute extraordinaire. Mmh. Mais en même temps, dans ce livre, ce n'est pas la chute qui est intéressante. C'est la construction. Et la construction, elle part de quelque chose qui est très quotidien à quelque chose qui est très métaphorique et très spirituel, en fait. Voilà. Et vraiment, on est vraiment plongé. Moi, j'ai commencé le livre en me disant, oui, c'est assez narratif. Et puis, progressivement, les images, il y en a très peu au début, elles deviennent de plus en plus importantes. Et puis, progressivement, les textes s'allongent et les descriptions sont de plus en plus métaphoriques. C'est bien écrit. Alors, il faut savoir que Delphine Roux, en fait, c'est d'abord une... Elle est d'abord, elle est passionnée de littérature jeunesse, voilà. Elle vient du monde de la littérature jeunesse et on le comprend très très bien dans la façon d'écrire et dans le dessin qui vient illustrer son propos. Et puis elle est aussi animatrice d'ateliers d'écriture, voilà, dans diverses structures d'enseignement du supérieur. Et elle est lectrice bénévole pour les jeunes enfants. Donc ça c'est intéressant de savoir ça parce que sa façon d'écrire aussi, on découvre un petit peu ce lien entre la notion de lecture d'un livre qui est fait pour lire aux autres et puis la construction de ce livre, quoi. Enfin, en tout cas, c'est un super moment, ça se lit très vite. Voilà. Et il faut aimer l'univers japonais, tout ça, mais voilà.
C'est bien représentatif, ouais, de l'univers japonais.
Ouais, ça fait vraiment, 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 vraiment du bien, c'est très, très doux. Voilà. Et en même temps, il y a derrière quand même un fond qui est important, je trouve, sur l'intergénérationnel. C'est comment elle se repose la question du lien intergénérationnel entre les enfants et les grands-parents, quoi, les petits-enfants. Et comment c'est nécessaire de ne pas abandonner nos personnes âgées, nos familles, de ne pas les laisser, quoi, errer, quoi. Ils ont encore plein de choses à dire, et même s'ils ne parlent plus, à exprimer par leurs yeux. Donc il y a tout ce... toute cette profondeur de ce qu'il peut lire dans l'âme de sa grand-mère à travers les yeux et le regard de sa grand-mère. Donc ça, c'est vraiment très, très beau, quoi.
C'est très épuré aussi comme mise en page. Hein.
Oui, oui.
C'est très aéré.
Ouais. Ouais, un très, très beau, très, très beau livre.
Allez, Héloïse, un passage. Ah, c'est dur. Hein.
Aujourd'hui, c'est qui, donc c'est sa sœur, roule en 4x4 Toyota dernier modèle. Elle a pris le forfait entretien total chez CarClean, s'y rend tous les 15 du mois après son travail.
Très beau choix.
Je ne suis jamais montée dans la voiture de Seki, je n'y ai jamais été conviée. À ses yeux, je ne fais cas de rien. On peut me suivre à la trace si maman voyait ça. La voiture de Seki doit sentir la vanille des îles, peut-être la fraîcheur yuzu, comme sa maison et sa vie entière.
Alors ça, c'est le début. Vous voyez, c'est très très descriptif, mais il faudrait que
tu
en lises un autre.
Mais ça donne un petit aperçu.
Vas-y, lis un autre vers la fin.
Plutôt vers la fin.
Juste un passage, ouais.
Mais vraiment, vraiment vers la fin.
J'aime bien l'histoire des escargots.
Chujistu, fidélité. Chez grand-mère, c'est le parfum sirupeux de l'huile de sésame. Les petits bouquets frais de chrysanthèmes ornant le tokonoma. La photo de grand-père mort pendant la guerre, à qui elle restait fidèle, comme un giseau à son chemin. C'était la radio allumée, du lever au coucher, le café d'orge toujours prêt pour ceux de passage, la petite table, le bois ciré de l'unisson. Et les faucheuses à longues pattes qu'il fallait respecter. Et les tiroirs fouillis qu'elle entretenait en répétant pour elle-même. Dans ton jardin secret, n'oublie pas un carré pour les mauvaises herbes.
C'est très joli, cette ouais. dernière phrase.
Oui, super.
C'est comme des petits haïkus, quoi. Ouais. C'est très beau.
Ok, parfait.
Après,
oui.
Du coup, combien on a fait de temps, là? Je sais pas.
Là, on est à... il nous reste 5 minutes.
Ok.
Mais on peut dépasser un peu. Hein. Tu veux présenter un livre?
Je ferai un petit courrier au CSA pour prévenir qu'on va dépasser de 5 minutes.
C'est bon, Valérie, du coup, pour le cœur cousu,
non,
on est bon.
Je peux pas en parler.
Tu veux dire un mot, Héloïse?
Quoi,
oui, je vais
cousu.
Dire...
Tu voulais parler du cœur cousu?
Ouais, mais j'y arriverai pas.
Non, mais Héloïse a nous un message à faire passer.
Oui, enfin, un petit message. Voilà, rien de dramatique, mais comme c'est la dernière émission où je suis, après ces 72 émissions riches en rire et en débat intellectuel, j'ai des petits mots à vous dire. Je vais parler de personnages qui pourraient être des personnages de fiction, mais qui sont bien réels et j'ai bien de la chance de les avoir dans ma vie. Donc, on va commencer par Valérie. Qui pourrait être une héroïne de Marie-Sabine Roger ou de Nadine Monfils, qui est passionnée, qui est volubile, qui est rigolote et qui vit tellement ce qu'elle dit qu'elle a encore du mal parfois à rester focalisée sur son micro. Elle nous fait rire souvent intentionnellement et aussi souvent malgré elle, ce qui est tout à fait charmant, et c'est une charmante femme et qui est pour moi un grand rayon de soleil bienveillant qu'on aimerait avoir toujours dans un coin de sa poche, le sortir quand on n'est pas très bien. Après, il y a Nico, lui, qui, s'il était un personnage de fiction, il serait un policier, un commissaire sympathique dans un polar nordique, c'est-à-dire quelqu'un, un homme pressé qui a jamais le temps, mais qui pourtant va s'arrêter 10-20 minutes pour nous parler de l'importance des arbres, de leur communication, et qui va prendre le temps de regarder un brin d'herbe et de parler avec nous. Il est aussi très bienveillant et toujours pédagogique, avec une belle pointe de poésie. Il y a Popo. Elle, je la vois comme un personnage de livre pour enfants, où on aime revenir, un livre qu'on va garder toute sa vie. Je pense aux Moumines, à Fifi Brin d'Acier ou au Carnet de cerises. Un sourire toujours collé aux lèvres, une passion évidente pour les livres et leur transmission. Elle a parfois des scrupules même à en dire du mal, parce qu'elle pense à tout le travail humain qu'il y a derrière. Et ça, c'est tout elle, parce qu'elle est très attentive aux autres. Elle est patiente, aventurière, et elle a bravé bien des sujets très difficiles tout au long de ses émissions. Et pour ça, je l'en remercie. Je crois que maintenant, elle pourra tout encaisser. Oui. Il y a Ludo, lui, qui aimerait être un personnage de John Fante ou Bukowski. Mais manque de chance, ce n'est pas un loser ni un alcoolique. Donc voilà.
Alcoolique, on ne sait pas.
C'est vrai, absolument.
Pour Ludo, je pense plutôt à un personnage très attachant de BD belge, rigolo, bonhomme, Spirou, ou Black et Mortimer, ou Tintin pour le côté jeune reporter avec de la chance et du culot. Il a été bien patient avec nous et a loupé quelques lectures, mais bon, avec quelques stagiaires et son bagou, tout s'est bien passé et vous avez jamais remarqué quoi que ce soit.
La balance,
j'ai jamais rien loupé, moi je ne suis pas d'accord.
Mais après, quand il a lu quelque chose, il en parle tellement bien qu'on est vraiment scotché. Et comme vous tous, il est devenu un véritable ami sur qui je peux compter. Et je pense qu'à nous tous, on forme une belle bande attachante, un peu comme dans Isidore et les autres, par exemple, qu'on a tous aimé. Et je voulais vous remercier tous pour toutes ces émissions et je vous embrasse. Voilà.
Mais merci Héloïse, on va essayer de continuer cette émission, mais ça sera difficile sans toi, donc on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est pas dit qu'on y arrive, tellement on est, comme tu l'as dit, on est une équipe et on est attachés les uns aux autres. Nico, quel personnage de roman, de livre serait Héloïse? Eh ouais, c'est toi qui commence.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
C'est pas évident, ouais.
Non, c'est pas évident. Bah, en fait, plein de personnages. Moi, pour moi, elle incarne ce que j'aime dans la littérature. C'est-à-dire quelqu'un qui aime les mots, qui aime voilà, les constructions verbales, qui aime les métaphores, qui aime la poésie, qui aime presque tout, en fait. Donc, c'est un médiateur, c'est une médiatrice du livre, c'est quelqu'un qui transmet sa passion. Donc voilà, j'espère qu'elle va continuer encore longtemps. Et puis voilà, c'est une belle amie aussi.
C'est ça. Pareil pour nous tous. Et on va bien fêter dignement cette dernière mission en buvant du champagne, n'est-ce pas, Popo?
Oui.
Et on va se régaler.
Ah bon? Pour quelle raison?
Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Ouais, on vous tiendra au courant.
Joyeuses fêtes.
Et joyeuses fêtes. Et ces 72 émissions sont bien sûr réécoutables. Vous pouvez les réécouter pendant 5, 10, 15 ans si vous voulez. Chaque vendredi, vous les mettez.
Il y a des super perles dedans si vous ne savez pas vraiment quoi faire comme cadeau à Noël. Réécoutez les émissions. Oui.
Et c'est le spécial blague d'émission, ouais. Je vous conseille.
Vous avez
oublié, ça, mon cerveau l'avait.
Ouais, il y a des émissions comme ça, on met de côté, on essaie de les oublier.
Non, mais ça fait partie des trucs aussi.
Non, c'est non, bien, mais c'est génial, cette émission. Ouais. On s'en rappellera. Allez, ciao tout le monde, bisous. Merci, bye.
Ciao, ciao.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Et je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.